Vous écoutez, on lit pour vous.
Le biochar, quel intérêt pour le Québec? Un texte de Clara Villeneuve, paru le 12 mars 2025 dans le magazine Québec Science. La toute première usine industrielle canadienne de biochar vient d'ouvrir ses portes à Port-Cartier, sur la Côte-Nord. Si le biochar est de plus en plus utilisé dans d'autres pays, le Québec en est encore à ses balbutiements et tente de combler son retard. La scierie Arbec de Port-Cartier a trouvé un nouveau preneur pour ses déchets forestiers. L'usine de production de biochar carbonité, qui transforme désormais ses résidus de bois en biochar, une sorte de charbon en poudre. Noir, très léger et poreux, le biochar suscite un engouement quasi planétaire. Il promet de faire d'une pierre trois coups. Valoriser les déchets organiques, améliorer la fertilité des sols et séquestrer du carbone à très long terme. Cette usine québécoise est la plus grosse usine de production de biochar en Amérique du Nord. Elle est née de l'effort collectif de l'entreprise forestière Groupe Rémabec, qui fournit les résidus forestiers, d'Airex Energy, qui a développé la technologie de production du biochar, et du groupe français Suez, qui s'occupe de la commercialisation de ce biochar. Leur ambitieux projet Carbonité témoigne de l'essor récent du biochar. Entre 2021 et 2023, la production annuelle mondiale de cet intrant agricole a plus que triplé, passant d'environ 96 000 tonnes à plus de 350 000. La raison de ce succès? Depuis 2022, le biochar est officiellement reconnu par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, comme une technologie de captage et de séquestration du dioxyde de carbone, CO2, atmosphérique. Pour limiter les changements climatiques, on a l'obligation de séquestrer davantage de carbone. Et quand on compare les différentes technologies en place, le biochar est actuellement la plus mature et la moins dispendieuse, soutient Michel Gagnon, chef de la direction d'Airex Energy. Ainsi, les résidus forestiers contiennent de grandes quantités de carbone que les plantes ont soutiré sous forme de CO2 à l'atmosphère grâce à la photosynthèse. Transformer ces débris en biochar revient indirectement à retirer le CO2 de l'atmosphère et à l'emprisonner pendant plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers. À titre d'exemple, le projet Carbonité permettra chaque année de séquestrer 75 000 tonnes de CO2 grâce aux quelques 30 000 tonnes de biochar produites à partir des déchets ligneux de l'usine de sciage Arbec voisine. Au total, le GIEC estime le potentiel de séquestration du biochar à 2,6 milliards de tonnes de CO2 par an. Mais quel est donc ce mystérieux or noir de plus en plus populaire? L'histoire du biochar prend sa source aux confins de l'Amazonie, au nord du Brésil. Là, les sols arides et orangés sont zébrés de parcelles de sol d'un brun très foncé, presque noir. Cette terre noire, extrêmement fertile, appelée Terra Preta en portugais, témoigne de l'occupation millénaire de ce territoire par les autochtones. À certains endroits, la Terra Preta daterait de plus de 2500 ans. En 2023, une équipe scientifique interdisciplinaire a démontré que des peuples autochtones auraient produit ces terres noires de façon intentionnelle, en enfouissant charbon de bois, restes de nourriture, fragments de poterie et autres matières résiduelles dans le sol afin d'y pratiquer l'agriculture. Au fil du temps, l'accumulation de ces déchets domestiques aurait mené à la formation de fertiles anthrosols, des sols de nature anthropique, qui auraient joué un rôle crucial dans le développement des sociétés agricoles de l'époque. Mais la fertilité n'est pas la seule propriété intéressante de la terra preta. Celle-ci contiendrait jusqu'à 150 grammes de carbone par kilogramme, soit jusqu'à 5 fois plus que les terres orangées de la région. Les anthrosols amazoniens constitueraient ainsi un réservoir inédit de carbone, très stable, séquestré depuis des millénaires. Et dans le contexte des changements climatiques actuels, c'est cette importante capacité de stockage de carbone qui suscite l'intérêt des scientifiques et qui a inspiré, dès le début des années 2000, la mise au point du biochar. Biochar ou biocharbon? Le gouvernement du Québec ne fait présentement pas de distinction entre les termes biochar et biocharbon. Dans la législation, ces deux termes renvoient à la matière solide issue de la carbonisation de la biomasse ou de la conversion thermochimique de la biomasse dans un environnement limité en oxygène. L'Office québécois de la langue française recommande l'utilisation du terme biocharbon, biochar étant un anglicisme. Toutefois, des spécialistes soutiennent que les termes biochar et biocharbon font référence à des produits distincts, ayant un usage et des effets environnementaux complètement différents et qu'il faut donc les distinguer. Selon leur définition, le biochar renvoie aux produits carbonisés, c'est-à-dire chauffés à forte température dans le but de le concentrer en carbone. Ce produit permet de séquestrer le carbone à très long terme et peut être utilisé comme amendement de sol dans la production agricole. Le biocharbon renvoie aux produits torréfiés, donc chauffés à faible température, utilisés pour sa capacité à générer de la chaleur. Un groupe d'experts coordonné par l'Organisation internationale de normalisation, ISO, travaille activement à la standardisation de ces termes. Vous écoutez « Le biochar, quel intérêt pour le Québec? » un texte de Clara Villeneuve, paru le 12 mars 2025 dans le magazine Québec Science. Un concentré de carbone. Pour produire du biochar, plusieurs techniques existent, mais la plus répandue est la pyrolyse de la matière organique. Il s'agit de chauffer de la matière organique, comme le bois, entre 300 et 900 degrés Celsius en absence d'oxygène. En présence de ce gaz, la matière organique s'enflammerait et brûlerait en libérant du carbone sous forme de CO2. Mais en absence d'oxygène, elle se consume sans libérer de ce gaz, ce qui laisse des cendres riches en carbone, le biochar. On parle donc de carbonisation. De telles conditions de chauffage favorisent l'assemblage des atomes de carbone en anneaux. Ces structures, dites aromatiques, sont très stables et très difficiles à décomposer. Avec le biochar, on veut atteindre le plus haut taux de carbone qui puisse rester dans le sol et ne pas retourner dans l'atmosphère sous forme de CO2. L'idée est d'aller chercher la fin du cycle de vie du carbone, une séquestration permanente, explique Lilia Kennash, vice-présidente Solutions climatiques d'EREX Énergie. Sur le plan agronomique, le biochar a aussi de quoi séduire. Il agit un peu comme une éponge dans le sol. Il retient les nutriments nécessaires aux plantes et peut absorber d'importantes quantités d'eau. De plus, ces pores constituent un milieu de vie propice aux micro-organismes, en plus d'améliorer la structure du sol. Le biochar n'est pas un fertilisant en lui-même, mais lorsqu'il est combiné avec de la matière organique riche en nutriments, comme du compost, il devient chargé et peut grandement améliorer la fertilité des sols. C'est exactement ce que les Autochtones avaient observé avec la Terra Preta amazonienne grâce au mélange de charbon de bois et de résidus alimentaires. C'est d'ailleurs dans ces climats tropicaux que l'utilisation du biochar en agriculture a fait ses preuves. Basée sur les pratiques ancestrales, elle y est encore artisanale et limitée à de petites parcelles. Mais l'industrialisation de la production de biochar pourrait accélérer son utilisation. Dans les régions tropicales de l'Amérique latine ou de l'Afrique, là où les sols sont souvent très acides, extrêmement lessivés et beaucoup plus anciens que nos sols québécois, le biochar peut avoir des effets assez impressionnants sur les rendements, explique Julie Major, agronome et directrice du programme d'études au Panama de l'Université McGill. Les études rapportent des résultats très variables, mais l'ajout de biochar augmenterait les rendements agricoles de 5 à 51 % d'après une synthèse publiée en 2024 dans Nature. L'avantage est moins flagrant en climat tempéré, où l'effet sur les rendements n'est pas bien démontré. Il faut dire que la tâche est complexe. Pas un, mais des biochars. En réalité, le biochar désigne une panoplie de produits dont les caractéristiques varient principalement selon la matière première et la température de pyrolyse. Or, le biochar peut être créé à partir de n'importe quelle matière organique, résidus de culture, débris forestiers, fumier, et dans une vaste gamme de températures. Résultat, une multitude de biochars à étudier et un véritable casse-tête pour les scientifiques. Le manque de standardisation dans les études sur le biochar est déploré par plusieurs spécialistes. C'est l'une des conclusions d'un article publié en 2021 dans la revue GCB Bioénergie. Pour remédier à ce problème, dans les études à venir, les signataires encouragent leurs collègues à caractériser systématiquement le biochar utilisé. Porosité, pH, matière initiale, conditions de production, à préciser s'il a été ou non mélangé avec un fertilisant, engrais chimiques ou compost, et à expliquer de quelle façon il a été ajouté au sol. Ce sont les exigences auxquelles se soumettra Pierre-Luc Chagnon, chercheur scientifique à Agriculture et Agroalimentaire Canada. Il a lancé son premier projet sur le biochar l'année dernière. L'objectif est de mieux comprendre les liens entre les conditions de sa production et son incidence sur la santé du sol, ainsi que sur ses propriétés physico-chimiques, rétention de l'eau et des nutriments, émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit d'un travail de longue haleine. On est encore à l'étape de preuve de concept à l'échelle de la recherche. Il y a encore beaucoup de travail à faire à ce stade pour s'assurer que le type de biochar utilisé aura des effets positifs, par exemple, selon la culture et le sol qui nous intéressent, constate Pierre-Luc Chagnon. Et les effets positifs à évaluer ne doivent pas se limiter au rendement. C'est ce qu'avance Vicky Lévesque, elle aussi à Agriculture et Agroalimentaire Canada. Dans une revue de littérature publiée en 2021, elle soulignait l'importance de prendre en compte l'effet du biochar sur différentes composantes de la santé globale d'un sol, comme son pH, sa structure, sa capacité de rétention d'eau, le lessivage des nutriments, la séquestration du carbone et les communautés microbiennes. Prix prohibitif. Malgré ses promesses, il reste un obstacle de taille, le prix du biochar, jusqu'à 3 000 $ la tonne, alors qu'il faut en épandre de 5 à 20 tonnes par hectare. Au Canada, l'aspect agronomique du biochar n'est pas nécessairement très vendeur. À ce prix, il faudrait vraiment aller chercher des bénéfices en matière de séquestration de carbone. C'est là que ça pourrait avoir un impact gigantesque, souligne Julie Major. Mais la séquestration du carbone n'est pas un marché en soi. Et malgré l'accès à des crédits compensatoires pour les fabricants de biochar comme RX Energy, les producteurs et productrices agricoles n'y ont pas droit. Ils et elles peuvent toutefois obtenir conseil auprès d'organismes comme Biopter, un centre de développement de bioproduits affilié au cégep de la Pocatière. Je reçois régulièrement des appels pour avoir du biochar ou savoir où s'en procurer. Les gens font les démarches, mais reculent à cause du prix, explique Sébastien Lange, co-directeur de l'innovation et transfert de technologie chez Biopter. Le monde agricole est désireux d'essayer le biochar sur de petites superficies, mais à ce jour, personne n'a les capacités financières ou ne veut investir pour de grandes applications. L'usine de Port-Cartier changera-t-elle la donne? Elle pourrait aider à diminuer les coûts du biochar, mais ce ne sera pas suffisant. Actuellement, l'usage agricole du biochar n'est pas subventionné au Canada. Or, à en juger par ce qui se passe ailleurs dans le monde, l'instauration de programmes gouvernementaux comme le Biochar Research Network Act aux États-Unis sera nécessaire pour soutenir l'industrie agricole dans la transition écologique. Le secteur agricole est responsable de 23 % des émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans le monde. Mais les sols sont aussi d'immenses puits potentiels de carbone. Tout ce qui peut faire fleurir ce potentiel sera bienvenu, biochar compris. C'était le biochar, quel intérêt pour le Québec? Un texte de Clara Villeneuve, paru le 12 mars 2025 dans le magazine Québec Science.
Les Inuits du Groenland, peuple frère des Inuits du Canada. Un texte de Magdalene Boutros, paru le 1er avril 2025 dans Le Devoir. La chaleur nous happe dès l'instant où l'on franchit la porte de Kirstenholm, dans le vieux quartier de Nuuk, capitale du Groenland. Avec un sourire communicatif, la dame de 70 ans nous accueille dans sa maison bleu ciel, balayée par le vent glacial prenant son souffle dans les icebergs dérivant sur la mer du Labrador. Au centre de la table, des boissons chaudes et des petits gâteaux nous attendent pour un kafimik, une tradition groenlandaise consistant à partager victuailles et bon temps avec des invités. Je suis né à l'hôpital Jaune, près du port, en 1954. Mais quelques années plus tôt, lorsque mon mari est né en 1946, il n'y avait pas d'hôpital. Il est né à la maison, nous raconte la septuagénaire en plongeant au plus creux de son enfance. Comme pour bien d'autres Inuits, son quotidien était parfois fait de chasse et de pêche. On allait dans le fjord, dans un petit bateau avec une tente, et mes parents allaient pêcher, se souvient-elle, ajoutant que les prises étaient ensuite salées pour qu'elles se conservent durant les longs mois d'hiver. En revisitant avec délicatesse l'histoire de son peuple, Kirstenholm nous emmène avec elle dans le Groenland de l'après-guerre. À l'époque, les gens étaient plus désireux d'avoir des réseaux d'entraide que de l'argent pour pouvoir partager, relate-t-elle, en nous servant une tasse de thé. Puis, dans les années 1950, les gens ont commencé à travailler et c'est là que le système basé sur l'argent a débuté. C'est aussi à cette époque que Nuuk, la capitale la moins populeuse, mais aussi la plus septentrionale du monde, s'est métamorphosée. À partir de 1953, date à laquelle le Groenland est passé du statut de colonie à celui de province du Danemark, des familles inuites ont été forcées de quitter leur village pour s'installer dans des villes et y travailler. Une politique du gouvernement danois vouée à faire évoluer l'économie de subsistance de l'île à une économie industrielle, tout en faisant des Inuits de véritables Danois du Nord. De nombreuses familles ont été relogées dans des agglomérations de la côte ouest, notamment dans des immeubles résidentiels érigés dans la capitale. Plusieurs personnes ont emménagé ici aussi, dans les maisons bleues, vertes, rouges et jaunes du vieux quartier de Nuuk, relève Kirsten Holm. C'était particulier pour eux de quitter leur village pour venir ici, mais ils ont dû le faire, raconte-t-elle avec tiédeur. Stérilisation forcée. À la même époque, pour contrer la faible espérance de vie des Groenlandais, Copenhague a accéléré le déploiement d'installations sanitaires et de santé dans l'île de plus de 2 millions de kilomètres carrés. C'est ainsi qu'en 1953, l'hôpital jaune de Nuuk, où Kirsten est née, officiellement appelé « Hôpital de la reine Ingrid », a été construit. Parallèlement, le taux de fécondité des Inuits continuait d'être parmi les plus élevés du monde. En 1967, pour limiter la croissance de la population, le gouvernement danois a instauré une politique de contrôle de naissance. Des milliers d'adolescentes et de femmes inuites se sont fait poser des stérilets, souvent sans en être informées. Ce n'est qu'en 2022 que ce programme, qualifié depuis de génocidaire par des politiciens groenlandais, a été révélé au public par une enquête journalistique. « J'ai été chanceuse qu'on ne me pose pas de stérilet. » Laisse tomber Kirsten Holm, qui a eu 4 enfants et qui est aujourd'hui grand-mère de 4 petits-enfants. Son père, qui était journaliste, a suivi plusieurs formations au Danemark. Par un heureux hasard, la famille n'était pas dans l'île lorsque le contrôle des naissances a été implanté. Au bout du compte, la moitié des femmes inuites en âge de procréer aurait ainsi subi une contraception involontaire. Peuple frère. Dans une similarité consternante, des politiques de contrôle des naissances et de déplacement de familles ont été implantées ici aussi, chez les Inuits du Canada. Des enfants Inuits ont aussi dû quitter leur communauté pour être éduqués dans des institutions contrôlées par des Blancs, au Groenland comme au Canada. Des traumatismes ayant laissé dans leur sillage des problématiques sociales semblables, dont des taux de suicide élevés chez ces deux peuples frères. Historiquement liés, les Inuits du Groenland et ceux du Canada sont en fait issus du même peuple. La branche groenlandaise serait arrivée dans l'immense île arctique il y a 4500 ans en traversant le détroit de Nares à partir de l'île d'Ellesmere, au nord du Nunavut. À leurs points les plus rapprochés, le Canada et le Groenland ne sont aujourd'hui séparés que par un détroit de 18 km de large. Une proximité historique et géographique qui incite plusieurs à vouloir raffermir les liens entre les deux communautés. Le 19 février, un accord visant à renforcer la coopération entre le Groenland et le Nord canadien a d'ailleurs été signé par l'Agence canadienne de développement économique du Nord, CanNord, et Nalik Ventures, un organisme financé par le gouvernement groenlandais pour stimuler le développement économique. Dans le Nord, on a tendance à regarder vers le Sud pour trouver des partenariats au lieu de regarder vers l'Est et l'Ouest. Alors qu'à mon avis, il s'agit d'une bien meilleure équation, fait valoir Thomas Tite Mogensen, directeur général de Nalik Ventures, rencontré dans son bureau à Nuuk. Nous avons de nombreuses possibilités pour travailler ensemble dans les secteurs du tourisme, de l'exploitation minière et de la culture. Nous sommes plus développés que vous dans certains domaines et vous êtes en avance sur nous dans d'autres domaines, alors je pense qu'il serait naturel de coopérer davantage. Une vision que partage Malina Abelson, ex-ministre des Finances du Groenland. Nous devrions avoir un lien très fort avec nos cousins canadiens et aussi nos cousins inuits de l'Alaska, souligne-t-elle en entrevue. Culturellement, nous nous ressemblons et nous avons presque la même langue. À la différence que les Inuits du Groenland détiennent les rênes du pouvoir. Nous avons la majorité et donc le contrôle du gouvernement. Donc, nous pouvons changer beaucoup de choses, fait valoir l'ex-politicienne en rappelant que 89 % des 57 000 habitants de l'île sont Inuits. Indépendance. Aujourd'hui, une forte proportion d'entre eux rêvent d'obtenir leur indépendance du Danemark. Dans sa maison emplie d'art inuit et de peaux de phoque, Kirsten Holm croit que son peuple y arrivera peut-être dans une vingtaine d'années. D'ici là, l'île doit se développer économiquement et réussir à garder ses habitants qui partent en grand nombre pour étudier, travailler ou couler leurs vieux jours au Danemark. Mais les saveurs de leur enfance, faites de matak, peau et gras de baleine, de viande de phoque, de saumon fumé et de morue séchée, les ramènent souvent dans la terre de leurs ancêtres. Ils reviennent l'été au Groenland, appelé Kalaallit Nunaat en groenlandais, pour manger notre nourriture traditionnelle, glisse la dame dans un sourire. Et pour reprendre aussi contact avec leur île. Le cœur de l'identité inuite, c'est que nous sommes des experts en matière d'adaptation et qu'on comprend qu'on ne possède pas la nature, mais qu'on en est dépendant, décrit Malina Abelson. Des racines qui ont pris pays, même sous la glace. C'était les Inuits du Groenland, peuple frère des Inuits du Canada, un texte de Magdalene Boutros, paru le 1er avril 2025 dans Le Devoir.